Voici une question dont la réponse est très importante à comprendre. Est-ce que Dieu est prêt à modifier son plan pour nous? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui a une portée éternelle, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Alors les voici sans plus tarder. Pourquoi est-ce que la généalogie de David est si importante? Est-ce que Dieu est prêt à modifier son plan pour nous? Est-ce à Dieu de nous obéir ou à nous de lui obéir? Qui est-ce qui met des barrières devant les réveils spirituels de nos jours? Qui est-ce qui produit des réveils? Pourquoi est-ce que Dieu choisit les choses faibles? Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Où est-ce que Salomon a pris l'idée de demander à Dieu de lui donner de la sagesse? Est-ce que Salomon était sage dans sa vie personnelle? Restez avec nous. Je suis certaine qu'on va recevoir tout un enseignement aujourd'hui en réponse à nos questions. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient te prier, on vient te demander de disposer nos cœurs, nos pensées, à recevoir tout ce bon enseignement que tu désires nous donner aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur, fortifie-nous par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui nous commençons l'étude du deuxième livre des Chroniques. Nous venons de terminer le premier livre. Nous avons vu que David a amassé les matériaux nécessaires pour la construction du temple, qu'il a organisé les Lévites pour le service du temple, et qu'il a encouragé les chefs d'Israël à procéder avec la construction après son décès. C'est Salomon, son fils, qui construira le temple. Le premier livre des Chroniques traite du règne de David. Les généalogies vont d'Adam à David. La généalogie de David est importante parce que le Messie sera l'un de ses descendants. Le Nouveau Testament débute ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Citation de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Voilà pourquoi la généalogie des Chroniques trace la lignée d'Adam à David. Les livres des Chroniques nous donnent l'histoire d'Israël du point de vue divin, alors que les livres de Samuel ainsi que des Rois, quoique inspirés, nous donnent l'histoire d'une perspective humaine. Dans les Chroniques, l'accent est mis sur David et sur la construction du temple. Le deuxième livre des Chroniques contient deux thèmes majeurs, la construction du temple et les réveils religieux. 9 chapitres traitent du règne de Salomon, dont 6 de la construction du temple. Nous voyons ce qui est important aux yeux de Dieu. La construction du temple fut le grand accomplissement de Salomon. Les gens parlent souvent des nombreuses femmes de Salomon, et ce fut spectaculaire, mais Dieu ne met pas l'accent sur ce point. Dieu avait demandé au roi de son peuple de n'avoir qu'une seule épouse. Salomon ne marchait pas selon la volonté de Dieu en collectionnant ses épouses. Cela conduit à la division du royaume. Le péché entraîne toujours un jugement. Le seul moyen d'entrer au ciel est de s'accrocher à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. À partir du chapitre 10 de 2 Chroniques, nous avons la division de ce royaume. En étudiant le livre des Rois, nous avons vu que de nombreux rois ont régné sur les deux royaumes, et très peu furent de bons rois. Il n'y en a pas eu un seul sur le trône du royaume du Nord. Donc, dans 2 Chroniques, l'accent est mis sur le royaume de Juda et sur la descendance de David. De nombreux rois ne furent pas fidèles à Dieu, mais il y en a eu 5 qui furent exceptionnels. Asa, Josaphat, Joas, Ézéchias et Josias. ces cinq rois furent des instruments de réveil spirituel en Juda. Nous examinerons ces réveils lorsque nous verrons ces cinq rois. Tout d'abord, précisons que Dieu a un plan, et il ne le modifiera pas pour vous et moi. Permettez que je vous dise que Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Dieu a un plan, et il ne le modifiera pas pour vous et moi. L'important, c'est que nous marchions au même pas que Dieu. Nous sommes invités par Dieu à l'accomplissement de ce plan. La volonté de Dieu vient de l'éternité. Elle s'est accomplie au cours des siècles et continuera de s'accomplir jusqu'à ce que nous soyons à l'état éternel des choses. Celui qui se met dans le chemin de la volonté de Dieu se fait écraser. Mieux vaut obéir que de résister. Dieu n'a pas le devoir de nous obéir, mais c'est le nôtre de lui obéir. Il y a sûrement quelqu'un à qui mes paroles déplaisent. Rappelez-vous que nous sommes les créatures. Les créatures n'ont pas à essayer d'amener Dieu à faire quelque chose pour eux. C'est Dieu qui cherche à se faire obéir de nous. Dieu veut que nous entrions dans son plan. Le problème, c'est que nous cherchons à faire des choses à l'envers de Dieu et sans Dieu. Dieu n'a pas le devoir de nous obéir, mais c'est le nôtre de lui obéir. Vous pourriez peut-être demander, « Mais Dieu ne veut-il pas susciter des réveils ?» Oui, chers amis, il le veut, mais nous devons remplir les conditions nécessaires. Il est intéressant de noter que les mouvements spirituels qui voient jour ne sont pas le fruit de ces théologiens lucides qui déterminent les conditions à remplir et des églises qu'ils font. Il y a peu de mouvements spirituels dans les églises aujourd'hui. De nombreuses églises sont mortes, chers amis. Ce n'est pas parmi les théologiens cérébraux que nous observons du mouvement spirituel. Ils se prononcent ex cathedra et ils ont toutes les réponses, disant qu'ils sont sans erreur. Ils ont des réponses, mais ils n'agissent pas. Ils ne font pas partie d'un mouvement spirituel. Les enseignants d'écoles bibliques et de séminaires écrivent des livres sur le sujet. Ils se posent en autorité, mais ils ne passent jamais à l'action. Et je ne pense pas qu'ils aient tant d'autorité, soit dit en passant. Mes amis, nous devons apprendre à nous incliner devant la volonté de Dieu, à nous rapprocher de lui et à nous confier en lui. Nous verrons dans ce livre que Dieu a utilisé certains hommes, même des rois, de façon extraordinaire, parce qu'ils étaient prêts à recevoir des ordres et non à n'en donner. Je pense que nous avons ici la plus grande barrière à un réveil parmi les leaders spirituels contemporains. Ce sont eux qui souvent mettent les freins à tout mouvement spirituel, et cela depuis des années. C'est l'Esprit de Dieu qui produit les réveils. Vous pensez peut-être que j'ai des idées révolutionnaires, mais je ne pense pas que l'on obtienne un réveil en écoutant des théologiens. C'est la parole de Dieu que nous devons écouter. C'est pour cela que je la prêche sur les ondes. Les programmes et les projets que nous montons dans nos églises ne sont pas toujours utilisés par le Saint-Esprit. Vous voulez la recette des réveils? La voici, dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Ce n'est pas par l'intelligence humaine, ni par la force humaine. Cette leçon est plus difficile à apprendre que l'on pense. Dans ce livre, l'attention est portée sur les rois qui ont suivi David sur le trône, spécialement ceux qui ont régné pendant des périodes de réveil, de renouveau et de réforme. Le livre se termine avec le décret de Cyrus, permettant aux Juifs de retourner dans leur pays après 70 ans de captivité. Le livre ne dit rien sur la période de captivité. C'était un temps d'arrêt dans le plan de Dieu. Rappelez-vous que l'histoire est présentée du point de vue divin. Chers amis, débutons notre lecture, cette fois de 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 1er. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Dieu choisit les choses faibles pour se glorifier. Rappelez-vous que nous avons déjà dit que Salomon n'aurait peut-être pas été le successeur que David aurait choisi. Il fut le choix de Dieu. Je pense que David ne voulait pas que Salomon soit l'héritier du trône. Son choix aurait probablement été le fils qui s'est rebellé contre lui, Absalom. Il aimait Absalom. David eut le cœur brisé lorsqu'Absalom fut tué. Il avait ordonné au capitaine de son armée de ne pas faire de mal à Absalom. David était disposé à tout sacrifier pour son fils. Il l'aimait, et le garçon avait le même tempérament que son père. Même s'il tenait de son père, il ne fut pas le choix de Dieu pour régner sur la nation. Le choix de Dieu fut Salomon. Dieu choisit les choses faibles, et il a choisi Salomon, et il va le bénir. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. David, qui fut un grand homme, est parti. Salomon est jeune, sans expérience et faible. Dieu utilisera Salomon pour construire le temple. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. Le royaume atteindra son zénith sous le règne de Salomon. David posa le fondement. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. La bienveillance de notre Dieu est insurpassable. Nous verrons que Salomon va désobéir à Dieu. Celui-ci le rejettera finalement et le royaume sera divisé. Salomon est responsable de ce châtiment. Si Dieu n'a pas divisé le royaume pendant le règne de Salomon, c'est à cause de sa promesse faite à l'égard de David, non pour les mérites de Salomon. Verset 2. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Salomon à nouveau convoqua tous les chefs d'Israël. Verset 3. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Le tabernacle avait été aménagé à Gabaon. Le peuple ne pouvait pas venir directement en présence de Dieu. Un autel d'airain se trouvait devant le tabernacle, et cet autel est un symbole de la croix du Seigneur Jésus. Il fallait aller à cet autel pour pouvoir s'approcher de Dieu, tout comme aujourd'hui, il faut passer par la reconnaissance de la croix de Christ pour se présenter devant Dieu. Oui, vous et moi devons approcher Dieu en passant par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, de nombreuses personnes pensent qu'elles peuvent approcher Dieu de n'importe quelle manière et n'importe quand, et que Dieu va les écouter. Prêtez attention aux paroles de l'apôtre Pierre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Dieu n'a jamais promis d'écouter les prières de ceux qui font le mal. La seule prière que peut faire un pécheur est une confession et d'accepter la miséricorde de Dieu offerte en la personne de Jésus-Christ. Pour approcher Dieu, il faut passer par le sacrifice du Seigneur Jésus. C'est ce que fait Salomon, accompagné des chefs. Il va où? À Gabaon, où se trouve le tabernacle et l'autel d'airain. Versets 4 et 5. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jérim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Le chemin à Dieu passe par l'autel d'airain, l'autel des sacrifices. Il ne pouvait se rendre directement à l'arche, autrement dit. Tu ne viens pas directement à Dieu, mais tu passes par le seul et unique sacrifice que Dieu accepte, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ, son Fils unique. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous lisons dans le Nouveau Testament, rapportée par l'évangéliste Jean les propos du Seigneur lui-même, Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Revenons à notre texte, de 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrait à l'Éternel 1000 holocaustes. Ils n'ont pas lésiné avec les sacrifices. Pendant le règne de Salomon, il y eut de nombreux sacrifices. Versets 7 à 9. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. » Dieu a tenu sa promesse envers David, et non seulement David, mais envers Abraham aussi, car il a dit, et je cite en Genèse chapitre 13, verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Verset 10. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Les gens admirent Salomon, parce qu'il fut assez intelligent pour demander de la sagesse. Dieu lui accorde le mérite de l'avoir demandé. Mais où a-t-il pris l'idée de le faire? Au chapitre 22 du premier livre de Chroniques, nous avons lu. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. » 1 Chroniques, chapitre 22, versets 7 et 8, ainsi que les versets 11 et 12. Salomon a écouté attentivement son père, et il a demandé de la sagesse. Versets 11 à 13. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation. Et il régna sur Israël. Dieu a accordé de la sagesse à Salomon afin qu'il règne sur Israël. Cependant, Salomon n'a pas demandé de discernement spirituel pour sa vie personnelle. Et cela se manifestera surtout dans le nombre d'épouses qu'il prendra. Versets 14 et 15. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. La nation prospéra sous le règne de Salomon. Versets 16 et 17. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150 sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Éthiens et pour les rois de Syrie. Le fait que Dieu nous bénit ne nous donne pas de passe-droit. Salomon désobéit déjà sur certains points. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, « Vous ne retournerez plus en Égypte par ce chemin-là. » Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Deutéronome, chapitre 17, versets 16 et 17. Déjà, Salomon amasse des chevaux et des richesses personnelles. Plus loin, nous verrons qu'il aura un très grand nombre d'épouses. Dieu n'approuve pas la désobéissance, et plus loin, nous verrons qu'elle aura des conséquences graves pour Salomon et pour la nation. Le fait que Dieu nous bénit ne nous donne pas de passe-droit et ne nous exempte pas des conséquences de notre péché. Salomon fut éventuellement rejeté par Dieu. Mais certaines conséquences se produisirent après son règne à cause de la promesse que Dieu a faite à David, son père. Dieu n'excusera jamais la désobéissance. Elle aura toujours ses conséquences. Maintenant, Salomon exécute les instructions qu'il a reçues de David, son père. Chapitre 2, versets 1 et 2. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon sort les plans du temple et organise les équipes de travail. Dieu met l'accent sur la construction du temple et un fait remarqué, nous avons un Dieu d'ordre, bien établi. Verset 3. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. » David et Huram s'aimaient. Salomon fait appel à son aide. Huram eut des problèmes avec Salomon, comme nous verrons plus loin. Huram fut généreux avec Salomon, mais c'était difficile de traiter avec le jeune homme. Verset 4. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum, odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes, et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Notez que c'est une ordonnance perpétuelle. Certains ne croient pas que les sacrifices seront restaurés pendant le millénium. Puisque les sacrifices d'animaux pointaient vers le sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix, pourquoi en offrirait-on pendant le millénium? Bien, Dieu l'a ordonné, et c'est une raison suffisante. Ils seront un rappel du sacrifice de Jésus-Christ. Terminons notre lecture avec le verset 5 de 2 Chroniques, chapitre 2. « La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. » De nos jours, qu'est-ce qui fait qu'une chose soit grande? Qu'est-ce qui fait qu'un homme soit grand? Qu'est-ce qui fait qu'une nation soit grande? Qu'est-ce qui fait qu'une église soit grande? Une seule réponse à toutes ces questions. Dieu. Oui, mes amis. Rappelons-nous que c'est Dieu qui fait toute la différence. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6, à chapitre 5, verset 2.
Merci beaucoup, Régent. On a encore vu aujourd'hui que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ça m'encourage tellement d'entendre ça. Pas vous? Dieu a choisi Salomon qui était jeune, sans expérience et faible pour construire son temple. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu te sens inapte au service de Dieu, incapable de faire quoi que ce soit? Eh bien, tu es sur la bonne voie, à condition, bien sûr, que cela ne te porte pas à ne rien faire. Dieu nous donne tous des dons et des capacités. Mais je crois qu'avec ça, on a tous aussi des faiblesses et des incapacités. C'est d'ailleurs ce qui m'amène dans la prière, dans les supplications, quand je vois que Dieu m'envoie pour accomplir telle ou telle chose pour lui. Et non seulement est-ce que mes faiblesses et mes incapacités me conduisent dans la prière, mais elle me donne aussi de voir le besoin que j'ai d'accomplir ces œuvres avec d'autres frères et sœurs en Jésus-Christ qui, eux, n'ont pas nécessairement les mêmes incapacités que moi. Par exemple, je sais jouer de la guitare, je sais me débrouiller assez pour composer des cantiques pour la gloire de Dieu, mais quand vient le temps de jouer en église ou en public, je suis reconnaissante envers Dieu de ce qu'il appelle d'autres musiciens à jouer avec moi, des personnes qui, à mon avis, jouent bien mieux que moi. Et ensemble, on parvient à produire, avec l'aide de Dieu bien sûr, une belle musique qui conduit le peuple de Dieu dans l'adoration et qui peut même toucher le cœur des gens qui ne connaissent pas encore Dieu à se tourner vers lui pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Donc je pense que je peux dire avec l'apôtre Paul que je me glorifierai bien plus de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu sait ce qu'il fait. Et toi, mon ami, toi qui n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie, aimerais-tu devenir un enfant de Dieu qui peut toujours compter sur son Papa du ciel, sur sa puissance, pour vivre une vie abondante, une vie qui non seulement est remplie de bénédictions sur cette terre, mais une vie qui va se continuer jusque dans l'éternité? Oh, je te dis pas que tu n'auras plus jamais de chagrin ou d'épreuve sur cette terre, mais je peux t'assurer que tu ne les vivras pas seul. Mon ami, tu peux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui même, en ce moment. Reçois Jésus comme sauveur, comme Seigneur de ta vie. Jésus a le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu. Il a payé le prix de ton rachat quand il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, puisqu'il est ressuscité le troisième jour, il est vivant et en ce moment, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'hésite pas. Invite-le à entrer. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie et mets ta confiance en Jésus seul pour le pardon de Dieu, pour le don gratuit de la vie éternelle. Dis-lui maintenant, tout simplement, « Seigneur, sauve-moi ». Il attend que tu l'invites. Il a déjà frappé à la porte de ton cœur et il attend que tu ouvres la porte. C'est comme si c'était une porte avec juste une poignée et la poignée est de ton côté. Alors c'est à toi d'ouvrir. Ouvre ta porte au Seigneur Jésus. Il veut te sauver. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux pour l'éternité. Pense-y. Le temps que tu passes sur cette terre est comme une seconde sur l'horloge de l'éternité. Alors détourne-toi de toi-même, tourne-toi vers Jésus et demande-lui son salut.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi. Ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, bien c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux.
Pour nous rejoindre, au téléphone
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2.
Bonne fin de semaine à tous!
Et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.